Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19. Apocalypse, chapitre 19. Donc, simplement pour résumer, très courtement, nous avons divisé l'Apocalypse en sept sections qui couvrent chacune toute la période de l'histoire entre l'ascension et la glorification du Seigneur Jésus-Christ et son retour victorieux. Mais plus on avance, plus on a de détails concernant les choses de la fin. Et là, nous sommes à la fin de la sixième section et nous avons beaucoup plus de détails par rapport à la première section où il y a les sept lettres adressées aux églises. Et on a ici comme une pause. Mais lisons d'abord les cinq premiers versets. Apocalypse 19. Les versets 1 à 5, et l'apôtre Jean écrit ceci. « Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. » Et ils dirent une seconde fois « Alléluia !» Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen Alléluia !» Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, qui le craignez, petits et grands. » Et jusque-là la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes ici donc en quelque sorte à une pause. On a vu au chapitre 18 la destruction de Babylone, de ce monde babylonien. Babylone étant une image de ce monde. Plus tard dans le chapitre 19, on verra le retour du Seigneur Jésus-Christ, les noces de l'agneau. Ici, Jean voit la chorale du ciel, la chorale céleste, qui chante « Alléluia », premier mot sur la feuille. « Alléluia », un mot qu'on entend beaucoup dans certains milieux, mais un mot qui est composé de trois parties. Il y a le verbe « louer »,« allèle », c'est le verbe « louer ». Ensuite, il y a le « ou »,« allez, lou », c'est la deuxième personne du pluriel, c'est « vous »,« vous, louer ». Et « Yah », qui est la version courte de « Yahvé », donc l'Éternel. Et donc, on a « loué l'Éternel ». Notre traduction, très souvent, traduit cela « Alléluia » de cette manière, « loué l'Éternel ». C'est un des rares mots hébreux qui se retrouve directement dans la langue française. Mais c'est intéressant de noter que ce mot « Alléluia » n'apparaît que dans deux livres de la Bible. Il apparaît ici, en Apocalypse, et particulièrement Apocalypse 19. On va le voir 4 reprises, et dans les versets que nous considérons ce matin, il apparaît 3 fois. Et dans l'Ancien Testament, on va le retrouver à 24 reprises dans le livre des Psaumes. Et le livre des Psaumes termine, Psaume 50, verset 6, « Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, louez l'Éternel » ou « Alléluia » en hébreu. Et dans le livre des psaumes, il y a une section qu'on appelle, et qu'on appelle encore, que les juifs appellent encore aujourd'hui, la section s'appelle « Hallel ». Et elle est composée des psaumes 113 à 118. On retrouve cette exhortation à louer l'Éternel dans tous ces psaumes. Et la tradition juive nous apprend que les juifs chantaient et chantent encore ce « Hallel », donc les psaumes 113 à 118, lors d'occasions particulières, et notamment lors de la fête de la Pâque juive. Ils chantent ces psaumes. La veille de sa crucifixion, le Seigneur Jésus-Christ, avec ses disciples, a fêté la fête de la Pâque juive avant l'institution de la scène, et ils ont chanté. Et il n'y a pas de doute pour dire qu'ils ont chanté les psaumes 113 à 118. Et on peut faire un rapprochement avec ce qui s'est passé dans cette chambre haute, la veille de la crucifixion, le Seigneur Jésus-Christ a chanté ces psaumes, cette louange à Dieu, alors qu'il arrivait à la conclusion de son ministère terrestre. Il était sur le point d'être crucifié, de donner sa vie en rançon pour sauver son peuple. Et ce que l'on lit ici en Apocalypse 19, on a la chorale des anges et ensuite la foule des rachetés qui chante « Alléluia » parce que l'histoire arrive à sa fin avec le retour victorieux, glorieux du Seigneur Jésus-Christ qui vient chercher son Église et vient juger ce monde. Il a donné sa vie pour nous libérer de la culpabilité, de l'esclavage du péché et il revient pour chercher son peuple et l'amener dans la gloire où le peuple est libéré de toute présence même du péché. On a vu au chapitre 18 le jugement terrible sur Babylone et on a ici donc au chapitre 19 la chorale et le peuple des rachetés qui font écho au Alléluia que le Seigneur lui-même a chanté avant sa crucifixion. Et le peuple des rachetés chante parce que le Seigneur Jésus-Christ revient victorieux. Verset 1, après cela nous renvoie donc au chapitre précédent et au jugement du monde que nous avons vu. Et nous avons, comme j'ai dit, comme une pause, puisque le retour n'est décrit que plus tard dans le chapitre. Jean entend dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ». La multitude céleste veut louer Dieu pour la chute, pour le jugement de la tyrannie, du mal, de Babylone. Et la louange de Dieu est composée de deux parties, de deux grandes parties. Le premier élément de la louange de Dieu, c'est que Dieu sera loué pour le salut de son peuple. Deuxième mot sur la feuille. La foule céleste se réjouit dans la gloire de Dieu, dans le salut de son peuple. Alléluia. Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Quand on parle du salut qui glorifie Dieu, ce que l'on veut dire, c'est que tout ce que Dieu a fait dans le salut va jeter une lumière sur ses attributs qu'il manifeste dans le salut des pécheurs. Dieu se glorifie en sauvant des pécheurs. Et ce salut manifeste la gloire de ses attributs. Et dans un passage similaire, on a vu au chapitre 7, Apocalypse 7, verset 12, la foule au ciel a chanté au sujet de sept attributs de Dieu. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Ici, la foule chante au sujet de trois attributs qui manifestent merveilleusement, que Dieu manifeste merveilleusement dans le salut des pécheurs, sa souveraineté, sa gloire et sa puissance. Mais que ce soit sept ou que ce soit trois, c'est des symboles, encore une fois, de perfection. Trois ou sept. Tout d'abord, il y a les chanteurs au ciel soulignent la souveraineté de Dieu dans le salut. Troisième mot sur la feuille. Il souligne la souveraineté de Dieu. Le salut appartient à notre Dieu parce qu'il est le seul à l'avoir accompli. C'est sa réalisation. C'est par sa volonté. Nous ne nous sauvons pas à nous-mêmes. On ne se sauve pas en faisant le bien. On ne se sauve pas en faisant plus de bonnes actions que de mauvaises, en faisant, pour ainsi dire, basculer la balance en notre faveur. Non, parce que nos œuvres sont corrompues par le péché. Toutes nos œuvres sont corrompues par le péché. Et on ne peut pas sauver le monde en faisant nos efforts pour détruire le mal qui est dans le monde. Alors, bien entendu, on doit s'opposer au mal. On doit dénoncer le mal. Mais le problème, c'est que l'être humain, tout être humain, est pécheur. Et tout être humain a besoin d'être sauvé. En fait, on retrouve ici le langage de beaucoup de personnages dans l'Ancien Testament. Rappelez-vous de Jonas, par exemple, prophète qui a péché contre l'Éternel, qui s'est enfui, qui a cherché à fuir devant la face de Dieu. Puis Dieu intervient. Dieu intervient pour que Jonas soit jeté à la mer. Et puis qu'un grand poisson vienne le sauver. Et Jonas, dans le ventre du poisson, reconnaît que Dieu est souverain. Que sa seule contribution dans toute cette histoire, c'est son péché. Quatrième mot sur la feuille. Et en Jonas 2, verset 10, Jonas s'écrie « Le salut vient de l'Éternel ». Vous pensez à Josaphat, ce roi avec à la tête du peuple d'Israël, quand Dieu les a délivrés d'une invasion, le roi était dépassé, il était perdu. Et parfois, nous-mêmes, on a les mêmes sentiments. C'est trop grand pour moi. Et Josaphat a fait ce que nous devrions faire dans ces moments-là, prier. Et Josaphat a appelé toute la nation à venir, à prier, à chercher la face de l'Éternel. On lit cela en 2 Chroniques 20, verset 12. « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux ? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. » Nos yeux sont sur toi. Et l'Esprit de Dieu est intervenu, il a saisi un homme du nom de Jacaziel. Et Dieu va parler au peuple à travers cet homme, verset 35. « Ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Et dans la suite, on lit que le lendemain, ils sont sortis de Jérusalem, ils ont vu la victoire de Dieu sur l'ennemi. Ils ont vu aussi toutes les richesses que l'ennemi avait laissées derrière lui. Mais comme Jonas ou Josaphat ou d'autres, ou comme cette foule, cette chorale céleste, nous devrions louer Dieu comme le Rédempteur, cinquième mot sur la feuille, le Rédempteur qui sauve de manière souveraine. Il a choisi son peuple avant la fondation du monde. Et il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ pour accomplir l'œuvre du salut. Cette œuvre qui était nécessaire pour sauver son peuple. Il a souverainement envoyé l'Esprit Saint qui ouvre les cœurs pour que nous croyions. Il nous donne la foi. Même la foi est un don de Dieu. Éphésiens 2. Nous n'avons aucun mérite. Nous n'avons aucune contribution positive. Et c'est pour cela que toute la gloire revient à Dieu. Et nous devrions le louer de tout notre cœur. Notre salut est l'œuvre de la grâce souveraine de Dieu. Le salut appartient à Dieu. Et c'est quelque chose d'encourageant pour nous, mais c'est surtout aussi encourageant pour les chrétiens auxquels l'apôtre Jean s'adresse au premier siècle. Cette affirmation, le salut appartient à Dieu, nous rappelle la volonté de Dieu pour son peuple. Et parfois, on peut se poser la question, et les chrétiens au premier siècle devaient se poser la question face à cette persécution qui allait arriver par l'empereur Domitien. Et nous-mêmes, dans nos circonstances, qu'est-ce que Dieu fait de mes circonstances? Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Et c'est surtout vrai quand on traverse des moments qui sont difficiles. Quel est le but de Dieu dans ma vie? Comment donner un sens à toutes ces épreuves? Et l'élément important à se souvenir est celui-ci, c'est que Dieu, dans sa souveraineté, est à l'œuvre, il a décidé. Il m'a sauvé, mais il est aussi à l'œuvre aujourd'hui dans mon salut. Et il a choisi différentes épreuves par lesquelles je dois passer, mais pour me faire grandir, afin que tout cela soit à la louange de son nom. Chacune de nos vies, aussi différentes les unes des autres, chacune de nos vies est unique, mais chacune va manifester la grâce de Dieu. Sixième mot sur la feuille. Chacune va manifester sa grâce souveraine qui a été à l'œuvre dans nos vies. Et au ciel, pendant toute l'éternité, les anges ne cesseront de faire ce qu'ils font ici dans ce verset. Ils seront émerveillés en voyant la vie de chaque enfant de Dieu qui sera au ciel. Parce que chaque croyant portera de façon unique son témoignage à la grâce de Dieu. Cette grâce souveraine. Le salut appartient à Dieu. Il sauve, Dieu sauve, pour apporter la louange à sa grâce et sa grâce qui est souveraine. La grâce, le salut appartient à Dieu. Il est souverain. Le deuxième élément dans la louange de Dieu pour le salut de son peuple, c'est la puissance de Dieu. Septième mot sur la feuille. Est-ce que Dieu est capable de sauver ? Est-ce que Dieu est capable de prendre soin de ma vie, de mes circonstances ? On a vu au chapitre 18 la destruction de la grande ville de Babylone, de tout ce système babylonien du monde qui est opposé à Dieu. Et face à cela, la foule au ciel pousse ce cri de louange à notre Dieu, parce qu'il est puissant. Il peut détruire le mal, il va détruire le mal, et il est puissant pour sauver son peuple. Et toute la Bible montre cela. Dieu a révélé sa puissance tout au long de sa parole, tout au long de l'histoire. Par exemple, Dieu a donné la force à Samson de tuer un millier de Philistins avec comme seule arme une mâchoire d'âne. Et il fait cela pour montrer la puissance. Il a la puissance énorme pour délivrer son peuple. On lit cela en Juges 15, verset 15. À la sortie d'Égypte, Israël avait besoin d'une échappatoire. Dieu a séparé les eaux de la mer Rouge. Israël a pu traverser en toute sécurité. Une fois qu'Israël était de l'autre côté, Dieu a fait retomber la mer sur l'armée des Égyptiens et a détruit Pharaon et les siens. Quand l'Israël est entré dans le pays de la promesse, Dieu a fait tomber les murailles de Jéricho. Tout au long de la parole, Dieu montre qu'il possède la puissance pour sauver son peuple. Huitième mot sur la feuille. Et l'apôtre Paul va commenter sur la plus grande manifestation de la puissance de Dieu en parlant de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Là, Dieu a vaincu le péché, il a même vaincu la mort. Et Paul va prier en Éphésiens au chapitre 1er, dans les versets 19 et 20, il va prier pour que les croyants connaissent l'infinie grandeur de la puissance de Dieu, qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et là, on a ici donc les anges qui louent Dieu pour la puissance qu'il a manifestée en détruisant Babylone, en détruisant ce monde mauvais, ce monde pécheur. Mais si Dieu va manifester sa puissance de manière ultime en détruisant et en jugeant ce monde, est-ce que nous ne pouvons pas aussi compter déjà sur sa puissance aujourd'hui, cette puissance qu'il a révélée tout au long de l'histoire? La puissance de Dieu lui permet d'accomplir tout ce qu'il a promis. Et elle lui permet d'assurer que tous ses objectifs seront atteints. Il est tout puissant. Et cela nous donne raison de chanter Alléluia, même aujourd'hui. Dieu est souverain. Il est puissant. Il est souverain dans le salut, il est puissant dans le salut, il est capable et il va sauver de manière parfaite tout son peuple. Mais troisièmement, au centre de la louange au ciel, il y a la gloire de Dieu. Neuvième mot sur la feuille. Le salut, la gloire, la puissance sont à notre Dieu. pour nous aider à comprendre un petit peu mieux ce qu'est la gloire de Dieu, qui, comme cela, est difficile à décrire, est utile de prendre les deux mots qui sont utilisés dans la Bible pour décrire la gloire de Dieu. Le terme hébreu est le terme kavod. Kavod. Et à l'origine, ce terme voulait dire quelque chose de lourd, quelque chose qui avait du poids. Et parler de la gloire de Dieu dans ce sens, c'est dire que Dieu compte, qu'il a du poids. Aujourd'hui, on vit dans une époque où Dieu ne compte pas, où Dieu ne fait pas le poids. Le monde ne se soucie pas de savoir ce que Dieu dit, de ce que Dieu pense, de ce que Dieu exige. Le monde dit que ce qu'on croit au sujet de Dieu importe peu, ça ne compte pas. On peut vivre sans craindre Dieu, sans craindre le jugement de Dieu. Mais les événements de la fin de l'histoire vont révéler la folie d'une attitude, de l'attitude de ce monde. Elles vont révéler que celui qui compte réellement, dixième mot sur la feuille, que celui qui compte réellement, c'est Dieu. Il compte, et tous ceux qui l'ont ignoré vont connaître une destruction terrible. Dieu a du poids, il compte. Ça, c'est un élément de sa gloire. L'autre manière de décrire, c'est de prendre le terme grec pour gloire, qui est « doxa ». Et on a doxologie qui vient de cela. Et ce mot vient du verbe « dakeo », qui veut dire « sembler ». Paraître. Et avec le temps, cela a voulu dire sembler impressionnant ou paraître impressionnant ou avec de la valeur. Et Dieu est ainsi. Il est le plus impressionnant, onzième mot sur la feuille. Il est celui qui possède la plus grande valeur. Il paraît majestueux. Et les événements de la fin de l'histoire vont prouver qu'il n'y a rien de plus impressionnant que Dieu. Rien de plus grand que lui. Et rien de plus important que notre relation avec lui. Et rien de plus important aujourd'hui que de vivre en étant accepté par Dieu. Et cela est possible que par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Et à la fin de l'histoire, Dieu va révéler que non seulement Dieu mérite la louange, mais qu'il est le seul qui doit être adoré. Qu'il est le seul à qui l'on doit adresser la louange. Au chapitre 18, on a vu par exemple que le monde, que les hommes adressaient la louange à Babylone. À ce monde, chapitre 18, verset 18, « Quelle ville était semblable à la grande ville ?» Voilà le cri des êtres humains dans ce monde qui adresse leur louange à Babylone. Mais quand Babylone, ce monde, est détruit, est amené à terre, et que les croyants ont été réunis dans la présence du Seigneur Jésus, les seules voix que l'on va entendre, vont s'écrier, verset 1, « Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. » Et en anticipant ce jour, nous sommes encouragés à célébrer Dieu, à le célébrer comme notre Dieu, comme le seul à mériter toute la louange, la reconnaissance et l'honneur. C'est lui seul qui doit compter dans notre vie. Ce n'est pas le monde. Et nous devons le reconnaître. La fin de l'histoire verra Dieu être glorifié pour le salut de son peuple. Mais le deuxième élément de la louange, c'est que Dieu sera loué aussi pour le jugement des méchants. Douzième mot sur la feuille. Il sera jugé pour le jugement. Verset 2. Les anges vont continuer leur louange parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée. Dieu est glorifié pour sa colère contre le péché. Et la raison est parce que ses jugements sont véritables et justes. Dieu n'est pas capricieux dans ses jugements. Il n'est pas injuste. Dieu exerce une justice qui est parfaite, qui est en accord avec sa parole, avec sa loi. Et aujourd'hui même, des personnes qui rejettent la parole de Dieu sont d'accord avec cette parole quand ils voient des voleurs ou des meurtriers être jugés. Et les hommes se révoltent devant l'injustice. Mais par contre, ces mêmes personnes n'acceptent pas toute la parole de Dieu. Et à la fin de l'histoire, Dieu va prouver qu'il a toujours agi selon sa parole. Qu'il a toujours jugé le péché selon sa parole, selon ce qu'il a révélé. Et nous, en tant que croyants, nous nous réjouissons de ce que le Seigneur Jésus-Christ a subi la colère de Dieu pour nos péchés. Mais nous pleurons, sachant que ceux qui sont en dehors de Christ seront jugés et condamnés et souffriront la colère de Dieu pour l'éternité. Dans le monde, le mal galope, le mal avance. On a des lois iniques qui sont votées, on a des sentences injustes qui sont prononcées. Et le cri s'élève, quand est-ce qu'une justice véritable sera vue dans ce monde? Au retour du Seigneur Jésus-Christ, à la fin de l'histoire, quand le Seigneur aura détruit ce monde babylonien qui est opposé à Dieu, ce cri va s'élever. Et ce cri pour la justice juste, parfaite, recevra sa récompense. Alléluia. Parce que ses jugements sont véritables et justes. Et nous avons deux causes ici qui nous sont données pour le jugement du monde babylonien, pour le système babylonien de ce monde. Deux causes nous sont données. La première, elle corrompait la terre par sa débauche, verset 2. Et nous avons déjà dit, c'est très répandu aujourd'hui, le monde tente, 13e mot sur la feuille, le monde tente, les hommes va rendre les choses attrayantes, va rendre les choses qui, pour les amener, pour les afficher comme étant, comme procurant le plaisir, comme étant les choses à la mode, alors que ces choses-là sont des choses qui sont immorales, que ce sont des choses qui corrompent, que ce sont des choses qui amènent à la destruction. Mais le monde va tout cacher, va cacher tout cela dans un bel emballage. C'est une corruption qui est méchante de la part du monde. Ce n'est pas nouveau. Le péché est entré dans le monde de cette manière-là. Satan a trompé Ève par la tentation, en cachant la vérité. Et en faisant cela, il a apporté la ruine dans le monde. L'humanité est corrompue. Et l'humanité vit à l'ombre de la mort. Et chaque fois que le péché avance de cette façon dans le monde, Dieu est en colère. Il réserve cette colère pour la fin de l'histoire. Et on voit le péché dans le monde partout, que ce soit dans le divertissement, les publicités, que ce soit dans les politiques qui font la promotion de l'immoralité. Tout cela pour avoir plus de pouvoir sur les hommes. Mais conduire les autres dans le péché est une chose qui est terrible. Et la condamnation sera terrible. Et Dieu va donner à la fin de l'histoire, il va donner raison à sa loi en jugeant ce monde babylonien pour toute sa perversion. Et la deuxième raison de la condamnation de ce système babylonien, c'est que Dieu a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Comme Jean-Claude l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de lieux dans ce monde où il y a la persécution. La chose la plus dangereuse, c'est de proclamer la parole de Dieu. Ou c'est même de louer le Seigneur Jésus-Christ de manière ouverte, publique. Et Babylone, ce monde, a les mains ensanglantées du sang des chrétiens. Ces chrétiens sont tués, sont emprisonnés à cause de leur foi, parce qu'ils annoncent l'évangile de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et même en Occident, il y a une autre manière, il y a une autre forme de persécution, 14e mot sur la feuille. Il y a une autre forme de persécution. Et je lisais récemment ce cas de, en Irlande du Nord, les responsables d'une pâtisserie, d'une entreprise de pâtisserie, ont été condamnés pour avoir refusé de préparer un gâteau qui portait le slogan en faveur du mariage homosexuel. Ils ne voulaient pas aller contre leur conscience. Et cela a été amené, ils ont été condamnés. Alors, ils font appel. Ils ont fait appel. Et je crois que c'est à ce stade, en ce moment-là. Mais voilà. Voilà la persécution qu'il y a. Et aujourd'hui, si on prend ouvertement position contre l'avortement, ou contre le mariage pour tous, ou ce genre de choses, le monde va nous attaquer. Mais Dieu promet la vengeance. Il promet de venger le sang de son peuple. La persécution du peuple de Dieu et le rejet du Seigneur Jésus-Christ par ce monde sera une cause principale de la colère de Dieu. Et en jugeant ceux qui ont versé le sang de ses serviteurs, Dieu ne glorifiera pas seulement sa justice, mais aussi sa fidélité. Il est fidèle à sa parole et il juge. Et la chorale au ciel rajoute dans sa louange l'éternité du jugement de Dieu. 15e mot sur la feuille. L'éternité du jugement de Dieu sur les méchants. Verset 3. Sa fumée de Babylone, détruite, monte au siècle des siècles. Et là encore, on a un langage de l'Ancien Testament. Genèse 19, par exemple, Abraham se tient au-dessus de la plaine de Sodome et de Gomorre après que Dieu ait jugé ces villes pour leur immoralité. Et on lit en Genèse 19, verset 28, Abraham vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Et c'est la même image ici à la fin de l'histoire, une fumée qui monte au siècle des siècles. Ésaïe, par exemple, a parlé de la même manière au sujet d'Édom. Ésaïe 34, verset 10, la référence que nous avons en marge dans la Bible. Elle ne s'éteindra ni jour ni nuit. La fumée s'en élèvera éternellement. D'âge en âge, elle sera désolée. Et ce n'est pas seulement symbolique, mais c'est symbolique de la réalité qui est enseignée. Et la réalité derrière ces symboles, c'est le jugement éternel en enfer. Paul a parlé de ce jugement final après le retour du Seigneur Jésus-Christ, dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9, « Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. » Et quand Paul parle de ruine éternelle, il ne parle pas d'annihilation ou la cessation d'exister. Non, il décrit un tourment éternel des méchants qui sont sous la colère juste et sainte de Dieu. Et on verra au chapitre 20 d'Apocalypse que Dieu lui-même va jeter les méchants dans l'étang de feu et de soufre, où ils seront tourmentés, 16e mot sur la feuille, ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Apocalypse 20, versets 10 et 15. Aujourd'hui, certains croyants trouvent difficile d'accepter une doctrine aussi dure que celle du jugement éternel. Et dans le monde évangélique, beaucoup essayent de minimiser l'enseignement de la Bible au sujet de l'enfer. Et c'est ce que traite le livre, par exemple, de John Blanchard, « Où donc est passé l'enfer ?» chez Europresse. Mais en agissant ainsi, ces personnes dénigrent la parole de Dieu. Ils corrompent, ils sont obligés de corrompre toutes les doctrines de la Bible. Parce qu'elles sont toutes liées d'une manière ou d'une autre avec cette vérité du jugement éternel de Dieu. Nier le jugement éternel, par exemple, conduit à minimiser l'horreur du péché. Mais le péché est tellement horrible que Dieu a dû envoyer son propre Fils dans ce monde pour sauver son peuple. Alors certains vont dire, oui, mais il y a une deuxième chance. Il y a le salut pour ceux qui meurent dans l'incrédulité, une deuxième chance après la mort. Mais là encore, c'est contraire à la parole de Dieu. Hébreux 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. S'il y avait une deuxième chance, pourquoi cet appel tout au long de la parole de Dieu à croire, à venir à Christ pour être sauvé? Non, il n'y a pas de deuxième chance. Ceux qui essayent d'adoucir l'idée de la souffrance en enfer, ils minimisent le sacrifice que le Seigneur Jésus-Christ a offert sur la croix pour les péchés de son peuple. On ne peut pas améliorer la Bible avec nos propres sensibilités. On ne peut pas. Le verset 4 montre la réponse de ceux qui conduisent la louange au ciel. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia ». Voilà la réponse à apporter devant la révélation de Dieu. Voilà la bonne réponse. Les 24 vieillards sont, je le rappelle, les représentants angéliques des 12 tribus d'Israël et des 12 apôtres. Ils représentent la totalité du peuple de Dieu racheté par le sang de l'agneau. Et les 4 êtres vivants sont les chérubins qui sont au plus près du trône de Dieu. Et ils représentent la soumission de toutes les créatures. On le voit en Apocalypse chapitre 4. Et on a ici donc un cantique, 18e mot sur la feuille, un cantique de louange adressé à Dieu de la part de toute l'Église et de toute la création. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants. Ils louent Dieu pour la gloire que Dieu révèle dans le salut de son peuple et dans le jugement. Et si on trouve que nos sentiments concernant le jugement de Dieu diffèrent avec de la réaction de ces êtres glorieux dans le ciel, et cela peut arriver parce qu'on a du mal avec cette doctrine, la chose à ne pas faire, c'est de dire que ce sont ceux qui sont au ciel qui ont tort. Non, la chose à faire, c'est de se demander pourquoi nous ne réagissons pas comme eux. Pourquoi est-ce que nous ne tombons pas sur nos genoux et nous ne nous exclamons pas en disant « Amen, Alléluia ». On doit reconnaître que le monde, avec ses idées, ont façonné ou influencé nos pensées au sujet du péché, au sujet de la sainteté de Dieu, de son honneur, au sujet du salut, au sujet du jugement. Et c'est vrai que quand on pense à certaines personnes, qu'on réalise qu'elles vont devoir souffrir un tel tourment, on ne devrait pas en avoir à Dieu pour sa justice. Mais on devrait en avoir au péché pour le mal qu'il a fait et qu'il a amené dans ce monde. On devrait avoir horreur du péché. La Bible ne fera pas de compromis au sujet de la vérité, concernant la colère et la juste colère de Dieu. Et nous devrions réagir à cela en annonçant la bonne nouvelle du salut, que pour éviter cette colère de Dieu, il faut venir à Christ dans la repentance et la foi. Et nous devrions prier pour le salut de ceux qui nous entourent. En dehors de Christ, l'homme est sur le chemin de la perdition, sur le chemin du jugement éternel. Ce n'est pas ma doctrine. Ce n'est certainement pas une doctrine que j'aurais choisie, mais c'est la doctrine de Dieu. Et le seul moyen d'éviter cette colère, c'est de se trouver sous celui qui a déjà subi cette colère, le Seigneur Jésus-Christ. C'est en étant en Christ que l'on ne connaîtra pas la colère de Dieu. Mais Dieu va être loué et glorifié pour ses jugements sur les méchants. Cela nous amène au troisième point. Dans ce passage, au début du chapitre 19, au verset 5, un appel à la louange de Dieu. Une voix sortie du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs qui le craignez, petits et grands. » Si Dieu se glorifie dans son salut, dans le salut de son peuple et dans le jugement sur les méchants, alors nous devrions vérifier nous-mêmes déjà que nous sommes bien sauvés par la foi en Jésus-Christ et que nous vivions pour la gloire et la louange de son nom. Nous avons trois affirmations ici qui concernent ceux qui adorent Dieu, verset 5. Tout d'abord, ce sont les serviteurs de Dieu, 18e mot sur la feuille. Dieu est adoré par ses serviteurs. Alors ça ne décrit pas une catégorie de personnes, une catégorie de chrétiens, comme ceux qui dirigent les assemblées. Non, cela décrit tous les chrétiens. Être chrétien, c'est être un serviteur de Dieu. En grec, le terme qui est utilisé est le terme « doulos ». C'est souvent traduit comme « serviteur », mais la meilleure traduction, en fait, c'est « esclave », 19e mot sur la feuille. Et ça rejoint ce que nous disions avec les enfants tout à l'heure. Nous avons ici le service qui est rendu par ceux qui appartiennent à Dieu. Ceux qui ont été rachetés, qui n'appartiennent plus à ce monde, mais qui appartiennent à Dieu. Nous le servons parce que nous lui appartenons. Nous sommes sa possession. Non seulement Dieu est-il notre créateur, mais il est notre rédempteur. Il nous a rachetés par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on doit souligner cette vérité. Parce que le monde enseigne que notre vie nous appartient. Que c'est à nous de décider ce qui doit nous arriver. Que c'est nous qui contrôlons notre vie. Mais c'est faux. Et en particulier pour le chrétien appartient à Dieu. Et c'est quelque chose qu'il faut se rappeler, par exemple, quand le Seigneur nous fait choisir de nous faire prendre un chemin qui est difficile, et peut-être même pendant une certaine durée. Ou quand il nous défie de vivre avec peu de choses matérielles, ou de nous lancer dans une aventure pour lui. Rappelons-nous qu'il a le droit de le faire. Parce qu'il est non seulement notre Créateur, mais aussi notre Seigneur, notre Rédempteur, qui nous a rachetés et qui nous a rachetés à un grand prix. Nous sommes à lui et il nous conduit jusqu'à ce jour de victoire lorsque le Seigneur Jésus-Christ revient. Nous l'adorons en tant que ses serviteurs, ses esclaves. Deuxième élément, ceux qui l'adorent sont ceux qui le craignent. 20e mot sur la feuille. Les vrais serviteurs de Dieu l'adorent avec révérence. Ils veillent à obéir à sa parole. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne veulent pas entendre, ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. Mais même l'obéissance à la parole de Dieu est un acte d'adoration. Nous lui appartenons et nous l'adorons, nous voulons le suivre, l'obéir, nous le craignons. Cette crainte n'est pas une terreur servile. Non, ce n'est pas la crainte d'un prisonnier devant son geôlier. Non, c'est l'attitude respectueuse d'un fils ou d'une fille devant son père, qui sait qu'il est accepté, mais qui craint son père, qui le respecte. Le chrétien qui est sage sait que le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Hébreux 12, verset 6. Notre Père Céleste ne prend pas les choses à la légère. Nous devrions donc le craindre, le respecter pour cela. Cela va se manifester dans la manière dont nous vivons. Nous nous réjouissons, oui, dans la grâce, dans la miséricorde, dans l'amour de Dieu. Mais nous montrons notre reconnaissance en rendant un culte à Dieu, qui lui soit agréable, avec piété, avec crainte. Sachant que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Hébreux 12, versets 28 et 29. Nous l'adorons avec crainte. Le troisième élément C'est que les serviteurs qui adorent Dieu avec crainte sont des personnes de toutes catégories. 21e mot sur la feuille. Cela inclut le jeune croyant comme celui qui est spirituellement mûr. Tous les enfants de Dieu en Christ sont appelés à louer Dieu. Des personnes de toute race, de toute nationalité, de toute langue, de toute classe sociale. Le monde divise les hommes. Le monde classifie les hommes. Mais en Christ, nous ne sommes qu'un. Nous sommes un peuple racheté par le sang de Christ pour vivre à la louange de Dieu. Qui que nous soyons dans ce monde, quelle que soit notre position sociale, si nous sommes à Christ, nous sommes un et nous sommes appelés à louer notre Dieu par notre service, par notre adoration, par notre vie, par notre obéissance, de manifester la grâce souveraine de Dieu à l'œuvre dans notre vie. Pour conclure, nous avons dit que le mot « Alléluia » est un des rares mots hébreux qui est passé directement dans la langue française. Mais il y a un autre de ces mots, un autre mot hébreu. Nous le voyons au verset 4. C'est le mot « Amen », 23e mot sur la feuille. Un mot qui exprime un accord, exprime un acquiescement. Nous répondons à la vérité en disant « Amen ». Oui, je témoigne que cela est vrai. J'acquiesce à ce qui vient d'être dit. Je crois cela, je m'appuie sur cela. Et dans le Nouveau Testament, ces mots « Amen » et « Alléluia » ne se trouvent ensemble qu'ici, en Apocalypse 19, verset 4. Ils vont bien ensemble. C'est l'Amen de la foi qui motive les chrétiens à chanter l'Alléluia à la louange de Dieu. Est-ce que nous pouvons dire « Amen » à la louange des anges au verset 1 ? Dieu est glorifié pour son salut, pour le salut de son peuple. Il est souverain, il est glorieux, il est tout-puissant. Est-ce que nous pouvons dire « Amen » à la louange au verset 2 ? Que Dieu est glorifié par ses jugements. Il est fidèle, il est juste. Tous ne devons pas louer Dieu de tout leur cœur. Mais un jour, tous les hommes devront rendre gloire à Dieu. Dieu est souverain, Dieu est tout-puissant, ses desseins seront accomplis, non seulement dans le salut, mais aussi dans le jugement. Et un commentateur le résume en disant, « Toute personne ayant vécu ou qui vivra dans ce monde devra un jour rendre gloire à Dieu. » De manière active ou positive, volontairement ou non, au ciel ou en enfer. Vous le glorifierez comme l'objet de sa miséricorde et de sa gloire qui sera vue en vous, ou vous le glorifierez, ou vous lui rendrez gloire dans votre rébellion et votre incrédulité, en devenant l'objet de sa colère au jour du jugement dernier. Nous allons tous rendre gloire à Dieu. Il est préférable, 24e mot sur la feuille, de lui rendre gloire de tout notre cœur dès ici-bas, et non contraint et forcé. Et nous lui rendrons gloire sur terre en disant « Amen à Christ, Amen à son évangile », en venant et en regardant à Christ dans la foi, en le regardant comme notre Seigneur et Sauveur. Nous avons dit que ces mots « Amen » et « Alléluia » ne se retrouvent ensemble ici, dans le Nouveau Testament, qu'ici, donc, dans Apocalypse 19. Mais dans l'Ancien Testament, on les retrouve ensemble encore une seule fois, dans le psaume 106. Et dans le psaume 106, on les retrouve dans une conclusion qui résume l'attitude, 25e mot sur la feuille. Il résume l'attitude que nous devrions avoir en réponse à la grâce que Dieu manifeste envers nous. Psaume 106, versets 47 et 48. Sauve-nous, Éternel, notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Et que tout le peuple dise Amen, Alléluia, louez l'Éternel. Que Dieu nous accorde sa grâce pour comprendre sa parole et qu'il nous aide à vivre pour sa gloire. Amen.